paix de Dieu. Vous savez que la paix est une valeur, une réalité qui a toujours été plutôt recherchée, et une fois qu'on l'a trouvée, on l'apprécie. Mais vous savez aussi qu'on parle de paix dans beaucoup de domaines. Par exemple, on parle de paix lorsque des enfants qui ont joué, qui ont fait beaucoup de bruit, quittent la pièce. Alors on se dit, enfin les adultes font cette réflexion quelquefois, enfin un petit peu de paix. On fait cette réflexion aussi parfois lorsque des invités qui sont venus à une fête s'en retournent chez eux et que la maison redevient calme. On le dit aussi peut-être d'une manière moins gentille lorsqu'une personne qui nous fatigue, parce qu'elle parle trop, parce qu'elle a un comportement qui nous agace, qui nous dérange. Alors on a peut-être cette expression, enfin je sais qu'en français on a cette expression un petit peu familière, on dit « fiche-moi la paix ». Ça c'est pas la chose la plus agréable à entendre. On l'a peut-être entendu quand on était enfant. Les enfants parfois irritent les parents, mais bon, on va pas tout leur mettre sur le dos quand même. Et puis, il y a d'autres domaines où on emploie le mot « paix » dans un sens bien différent de celui qu'a employé Jésus, bien sûr. Par exemple, lorsqu'il y a des problèmes entre mari et femme et qu'on est là un petit peu pris à témoin, alors on dit qu'on est pour la paix des ménages. Et on s'éloigne discrètement. Toutes sortes d'expressions où le mot « paix » est employé, mais bien évidemment, comme toujours, quand Jésus parle d'une réalité, quand Jésus parle de quelque chose, il lui apporte un sens beaucoup plus élevé, beaucoup plus riche. Et l'homme a tendance à dégrader souvent les valeurs que Dieu même a créées au départ. Au plan international, on pourrait dire que la paix aussi, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup entre toutes sortes d'États. On en parle tout le temps, mais tout autant qu'on en parle, on fait le contraire, c'est-à-dire la guerre. Je crois que depuis un siècle, il n'y a pas eu pratiquement d'année qui s'est écoulée dans l'histoire de l'humanité sans qu'il y ait eu une guerre en cours. Et actuellement, vous savez qu'il y en a plusieurs en cours. Quelqu'un de plutôt pessimiste, je crois, disait un jour « Les traités de paix sont faits pour être rompus ». Alors, je ne pense pas que c'est le but exact des traités de paix, mais cela dénote une certaine réalité, c'est que l'être humain a du mal, premièrement, à faire la paix, deuxièmement, à la conserver quand il l'a. Jésus a adressé les paroles que nous avons lues il y a un instant dans l'évangile de Jean, quelques heures, probablement, avant sa mort. Jésus était avec ses disciples dans ce qu'on appelait la chambre haute, cette pièce où peut-être ils avaient l'habitude de se retrouver régulièrement. Et c'est à cette occasion, dans ces dernières paroles, cette conversation de Jésus avec ses disciples a peut-être duré quelques heures, mais pendant ces quelques heures, Jésus a apporté un enseignement important, un enseignement profond à ses disciples, et en particulier, il a prononcé ces paroles au sujet de la paix. Jésus prononce ces paroles un petit peu comme un homme qui, c'est le cas d'ailleurs, qui va quitter les siens parce qu'il va bientôt mourir, et c'est le cas aussi, même si les disciples ne le savent pas encore vraiment, ils ne le réalisent en tout cas pas du tout. Jésus prononce ces paroles comme un peu un testament, puisqu'il dit « Je vous laisse ma paix ». Et il y a même un traducteur de la Bible qui a dit, on aurait pu traduire cela par « je vous lègue ». C'est vraiment un héritage. « Je vous donne ma paix en héritage ». Jésus a souvent laissé des paroles comme cela à ses disciples pour qu'ils les conservent, pour qu'ils y réfléchissent. Vous savez que la Bible nous dit que c'est lorsque le Saint-Esprit leur a été accordé le jour de la Pentecôte et par la suite, quand il leur a été renouvelé, que les apôtres ont commencé à comprendre un certain nombre de choses que Jésus leur a dites. Ici, avant de quitter ses disciples, Jésus leur laisse donc un héritage. Cet héritage, c'est la paix. Et nous allons voir dans quelques minutes que Quand Jésus donne quelque chose, quand Jésus laisse quelque chose entre nos mains, Jésus le dit lui-même, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Nous l'avons vu il y a quelques instants, le monde donne la paix, mais elle ne dure pas longtemps. Quand Jésus donne, ce qu'il donne est vrai, authentique, profond et durable. On pourrait se poser la question pour commencer, mais qu'est-ce que la paix dont parle Jésus ? Quelle est la source aussi de la paix de Jésus ? La paix de Dieu, la paix de Jésus, c'est un des grands privilèges du disciple. C'est un des grands mots de la Bible. Vous savez que dans la langue hébraïque, la langue de Jésus, paix se dit shalom. Mais shalom, c'est aussi une salutation. Lorsqu'un juif rencontre un autre juif, il ne se dit pas bonjour. Bon, s'ils parlent français, bien sûr, ils vont se dire bonjour, s'ils habitent en France. Mais dans la langue hébraïque, bonjour se dit shalom. C'est-à-dire, et d'ailleurs, j'avais étudié quand j'étais jeune, donc vous voyez que ça fait assez longtemps, j'avais étudié un petit peu l'hébreu, et lorsque deux juifs se rencontrent, ils ne se disent pas bonjour, ils se disent « Comment va ta paix ?» Et nous allons voir dans quelques instants que la paix, c'est bien plus que l'absence de guerre ou l'absence de bruit. C'est bien plus que le silence. La paix, c'est en même temps la santé. C'est en même temps la sécurité. C'est en même temps le bien-être. C'est en même temps la prospérité. Et puis c'est bien sûr la paix. Mais vous voyez que le mot en hébreu, shalom, a un sens beaucoup plus riche que par exemple lorsque nous nous saluons, nous disons « Bonjour, ça va ?» On dit toujours « ça va ?» Alors, même si ça ne va pas, des fois on dit « ça va ?» Ou on dit « ça va ?» C'est déjà moins enthousiaste. Shalom, la paix, c'est une véritable salutation parce que... Et d'ailleurs, je remarque que dans certains pays, je pense à l'Italie, que nous connaissons assez bien, et la Roumanie aussi, lorsque les chrétiens se saluent, ils ne se disent pas « bonjour, ça va ?» Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « la paix, pace, la paix. » La paix soit avec toi, en quelque sorte. C'est donc une salutation qui ressemble à l'hébreu. Quelques éléments importants de la paix dont Jésus parle. Premièrement, la paix de Jésus, la paix que Jésus donne, et nous allons voir dans quelques instants ce que cela signifie vraiment, la paix que Jésus donne est destinée à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu peut prétendre à la paix que Dieu donne. D'ailleurs, dans sa lettre aux Galates, je crois, oui, aux Galates, l'apôtre Paul dit que la paix est une des manifestations du fruit de l'Esprit. Or, dit Paul, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc s'il peut pousser, si ces fruits peuvent pousser naturellement, si l'Esprit de Dieu a bien été implanté en nous, vient habiter en nous véritablement, si nous le laissons habiter vraiment en nous, la paix devrait pousser en nous comme un fruit tout à fait naturel. C'est l'une des qualités du chrétien de vivre dans la paix. Deuxièmement, la paix de Dieu est une réalité beaucoup plus grande que ce que le monde appelle la paix. Pour le monde, la paix, c'est plutôt, on va dire, l'absence de problèmes, l'absence de soucis majeurs, l'absence d'événements négatifs. La paix, c'est peut-être même l'absence de bruit. Vivre en paix, c'est vivre sans perturbation. Vous savez que c'est assez difficile de vivre sans perturbation. Nous allons d'ailleurs voir que la paix de Jésus peut rester en nous. Elle peut être en nous même quand nous traversons des moments difficiles. Il y a un autre événement qui survient, que lorsqu'on croit être en paix, selon l'être humain, il peut y avoir un événement qui surgit tout d'un coup et la paix s'en va tout de suite. L'être humain n'est pas capable de maintenir la paix, de faire vraiment la paix et de la conserver. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens des paroles extraordinaires qui nous parlent de cette paix. Je lis dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul dit aux chrétiens de la ville de Philippe, « Ne vous inquiétez de rien, mais, sous-entendu, si jamais vous commencez à vous inquiéter. En toutes circonstances, favorables ou non, c'est moi qui rajoute, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, qui ne se passe pas bien dans votre vie, dans notre vie, ne nous inquiétons de rien, mais quelles que soient les circonstances, demandons à Dieu dans la prière de quoi nous avons besoin. Et dit Paul, faites-le avec un cœur reconnaissant, c'est-à-dire faites-le en ayant déjà la conviction, la confiance que Dieu va répondre à la prière, quelle que soit la circonstance. Et Paul ajoute cette parole extraordinaire, et sous-entendu, si vous faites cela, quand vous avez des soucis, si vous présentez cela à Dieu dans la prière et avec un cœur déjà reconnaissant pour ce que Dieu va faire, et si vous faites cela, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut penser ou imaginer. C'est donc quelque chose d'extraordinaire dont Paul parle ici. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut penser ou imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Et ici, je tiens à préciser, comme le disent certains traducteurs, lorsque Paul dit la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut penser et imaginer gardera vos cœurs, il paraît que le mot original qui est employé ici dans le texte, origine, sous la plume de l'apôtre Paul, veut dire la paix de Dieu fera comme le travail d'une sentinelle auprès de votre cœur. Vous savez ce que c'est qu'une sentinelle ? C'est quelqu'un qui surveille. Qui surveille s'il n'y a personne qui arrive avec des intentions hostiles. Les sentinelles, dans le temps, étaient sur le haut des murailles, quand les villes, ici en France, étaient entourées de murailles. Et les sentinelles, toute la nuit, toute la journée, surveillaient, regardaient au loin, pour voir si quelque ennemi ou quelque personne inattendue se présentait à la distance, à distance. La paix de Dieu va agir dans nos cœurs, si nous faisons confiance à Dieu, comme une sentinelle pour garder notre cœur et nos pensées. D'ailleurs, c'est juste après que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est noble, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite d'être approuvé, soit l'objet de vos pensées. Il existe donc un moyen de vivre dans la paix de Dieu en permanence. Il existe un moyen de surmonter ses soucis en priant Dieu, de les prendre en main, en le remerciant à l'avance et en sachant que si nous agissons ainsi, la paix de Dieu viendra en nous et gardera notre cœur et notre esprit qui conçoit les pensées et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Alors, c'est cette paix que Jésus donne, pas une autre. C'est cette paix que nous pouvons expérimenter en toutes circonstances, même au sein de la maladie, par exemple. Même au sein des problèmes les plus graves, même au sein de l'épreuve. Dieu nous dit, Jésus nous dit, Paul nous dit que cette paix que Dieu donne, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, surtout tout ce qu'un homme peut imaginer, cette paix-là, elle peut rester dans le cœur, quelle que soit la situation. Et vous savez que cela, c'est une idée, une pensée, une conception que l'être humain a du mal à assimiler. Pour l'être humain, comme nous l'avons dit tout à l'heure, être en paix, c'est ne plus avoir de soucis. C'est ne plus avoir de problèmes. C'est n'avoir que des amis. C'est vivre des situations agréables. Mais vous le savez bien, cela, c'est très difficile. L'être humain a beaucoup de mal à connaître de telles situations. Et généralement, quand tout va bien, il y a même des gens qui sont tellement pessimistes que lorsque tout se passe bien dans leur vie, ça les interpelle. Ils commencent déjà à se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tout aille bien ?» Je me souviens d'une personne, c'était une femme de pasteur, lorsqu'elle s'est convertie, donc avant que son mari soit pasteur, cette femme s'était convertie des années avant, et elle me disait « Quand je me suis converti, l'Évangile, Dieu, la foi chrétienne, la joie, la paix, l'amour de Dieu, c'était tellement nouveau pour moi que j'étais presque inquiète de voir que tout allait bien. de voir que j'étais maintenant heureuse, que maintenant je n'avais plus de problème, que maintenant, tous les matins, je me réveillais en forme, et je trouvais ça presque suspect. Tellement, vous savez, tellement l'esprit humain n'est pas d'un optimisme ravageur. L'être humain est souvent en proie au pessimisme. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que cette paix de Dieu, cette paix que Jésus, dont Jésus parle, on pourrait se dire, mais d'où venait, quelle était la source de la paix que Jésus lui-même avait? Parce que si Jésus dit « Je vous donne la paix », c'est parce qu'il l'avait. Hein, je ne pourrais pas vous dire « Je vous donne cette montre » si elle ne m'appartenait pas. Hein, je ne vous la donne pas, mais bon. On ne pourrait pas dire, on ne peut pas dire « Je vous donne telle chose » si on ne la possède pas soi-même. On ne peut donner que ce qu'on possède. Si Jésus dit « Je vous donne ma paix », c'est parce que lui-même a la paix. Et il a cette paix que Dieu donne. Il a cette paix, pourquoi? Pourquoi avait-il cette paix? Tout d'abord, je noterai deux choses en fait. Tout d'abord, Jésus vivait dans une confiance absolue en Dieu. Pas en lui. Parce que si on vit dans une confiance absolue en soi-même, je ne suis pas sûr qu'on aura la paix tous les jours. Jésus vivait dans une confiance absolue en Dieu. La confiance en Dieu, c'est l'élément clé de la vie chrétienne. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, est le premier élément essentiel d'une vie véritablement chrétienne. Jésus avait une totale foi en Dieu. Vous savez que la confiance, c'est capital. À vrai dire, on ne peut pas vivre, même en tant qu'homme, même sans parler de Dieu, on ne peut pas vivre sans faire confiance à un minimum de personnes. Et si il y a des gens qui ne font confiance à personne, ces gens-là sont bien malheureux. La confiance dans les autres est capitale. D'ailleurs, si j'interrogeais chacun d'entre vous, mais je ne le ferai pas, le temps est quand même trop limité, si je vous disais, quelles sont les personnes dans votre entourage auquel vous faites totalement confiance? Hein, vous pouvez y réfléchir quelques secondes, mais je continue pendant ce temps-là. Ce n'est pas évident toujours. Mais il y a certainement autour de vous, peut-être des membres de votre famille, enfin c'est à espérer d'ailleurs, votre mari, votre femme, si vous êtes marié, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis les plus proches, des membres de l'Église, en qui vous avez une totale confiance. Moi je me souviens que pendant 24 ans, enfin, je veux dire, mon père est décédé quand j'avais 24 ans. Et je me souviens, et c'est vrai aussi pour ma mère qui est décédée beaucoup plus tard, je me souviens que j'ai toujours eu totalement confiance en mon père. Pourquoi? Jamais mon père ne m'a menti. Jamais mon père ne m'a promis quelque chose sans le faire ou sans me le donner. Mon père n'était pas quelqu'un qui promettait énormément. Mais bon, jamais il n'a dit une chose sans la faire. Jamais il a dit « je viendrai à telle heure » sans arriver à telle heure. D'ailleurs, généralement, il arrivait avant. Il était toujours prêt avant l'heure. Il arrivait toujours partout avant l'heure. Enfin, avant l'heure, 10 minutes avant. Et il partait toujours suffisamment tôt pour être jamais en retard. Je n'ai jamais vu mon père entier, je crois qu'en 24 ans, j'ai vu mon père, et moi avec, puisque nous étions tous ensemble, nous sommes arrivés une fois au culte en retard. Ça vous dit quelque chose, ça? Une fois au retard au culte, alors je ne vais pas dire depuis que je suis né, parce que je ne contrôlais pas à l'époque quand je suis né, mais disons depuis l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans, puisque j'ai vécu 20 ans, dans, 10 ans, enfin c'est les 20 premières années de ma vie dans la ville où mon père a toujours habité. En 10 ans, je ne nous suis vus qu'une fois arrivé en retard à un culte. Et à l'époque, nous allions en moyenne 3 fois par semaine à l'église. Donc c'était le culte et les 2 autres réunions. 3 fois multiplié par 52 semaines, multiplié par 10 ans. Une fois en retard. Et je précise, en retard de 5 minutes. Mais à l'époque, 5 minutes, ça ne se faisait pas. Nous étions en retard parce qu'il y avait une grève des bus. Alors nous étions allés à l'église à pied, nous avions marché 45 minutes, et donc nous étions un petit peu en retard. 5 minutes seulement, parce que nous partions toujours très tôt. J'avais une totale confiance en mon père, et j'ai eu toute ma vie la même confiance en ma mère. Jésus, lui, avait une totale confiance en son père. Il savait que tout ce que Dieu lui avait promis, Dieu l'accomplirait. C'est pourquoi il vivait dans une paix parfaite. Et la deuxième chose, c'est que Jésus savait que son Père l'aimait. Vous savez que c'est important, cela. Jésus savait que son Père l'aimait. Il vivait dans cette conscience permanente de l'amour de Dieu. Quand il priait, par exemple, son Père, il priait avec une assurance totale. Il savait que tout ce qu'il allait demander à Dieu, il allait le recevoir. Vous vous rappelez qu'une fois, c'était même un moment difficile. Ce n'était pas évident du tout. Jésus se trouvait devant le tombeau de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Tout le monde pleurait autour de Jésus. Et Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare et il a demandé qu'on enlève l'ouverture du tombeau, qu'on pousse la pierre qui fermait le tombeau. Et il a prononcé devant le tombeau de Lazare cette parole extraordinaire avant que Lazare ne soit ressuscité. Parce qu'après, c'est plus facile. Avant que Lazare ne soit ressuscité, alors que Lazare était encore dans le tombeau, mort depuis 4 jours, Jésus a dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Vous avez déjà dit ça à Dieu ? Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi cela ? Parce que Jésus, premièrement, avait une confiance absolue en Dieu, et deuxièmement, parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Et parce qu'il évoluait dans cette conscience totale de l'amour de Dieu, il vivait en paix en permanence. Vous savez que c'est la première faute qu'ont commis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Leur première faute, ce n'était pas le fait de prendre du fruit de l'arbre interdit et d'en manger, même si concrètement, c'est comme cela que leur première faute s'est concrétisée. Mais leur première faute, c'est lorsque Satan leur a commencé à les faire douter de l'amour de Dieu. Lorsque Satan leur a dit, « Est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de manger de ce fruit ?» Et Adam a répondu, « Oui. » Dieu nous a interdit d'y manger, et c'est Ève, pardon, qui a dit, Dieu nous a interdit d'en manger, ni même de le toucher. Et Satan a dit, et pourquoi cela ? Ève a répondu, parce que Dieu nous a dit, si vous y touchez, si vous en mangez, vous mourrez. Et Satan leur a répondu, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Et Adam et Ève ont douté de cette parole. C'est-à-dire qu'ils ont douté, non pas de cette parole de Satan, mais ils ont douté que Dieu les aimait au point de devoir de temps en temps leur interdire certaines choses, pour leur bien. C'est le fait qu'ils ont douté de l'amour total de Dieu pour eux. Vous savez, quand on aime quelqu'un, par exemple, un père, une mère vont aimer leurs enfants, de temps en temps, ils interdisent à leurs enfants certaines choses. Par exemple, ils vont dire à l'enfant, ne touche pas cela, en parlant de la porte du four. Bon, je sais que maintenant, il y a des fours qui ont des portes qui ne chauffent plus, mais pendant très longtemps, il y a encore des fours dont la porte chauffe, on disait toujours, ne touche pas, tu vas te brûler. Et vous savez qu'une fois sur deux, au moins, l'enfant finit par toucher, parce que ça l'intrigue, cette interdiction. Et puis, bien sûr, il se brûle. C'est un peu la même histoire qu'Adam et Ève. N'y touchez pas, vous allez vous brûler. N'y touchez pas, vous allez mourir. À la fin, on finit par toucher quand même, parce que c'est intriguant. On n'aime pas les interdictions quand on est un être humain. Alors ils ont fini par toucher, et vous le savez, ils se sont brûlés, entre guillemets. Ils se sont brûlés. Ils n'ont pas eu une totale confiance en Dieu et en ses paroles. Ils ne les ont pas cru vraiment, complètement, et ils n'ont pas cru totalement dans l'amour de Dieu pour eux. L'amour, la confiance absolue en Dieu et l'amour, et la conscience permanente de l'amour de Dieu pour nous, c'est cela qui peut nous faire vivre dans la paix totale. lorsque nous croyons vraiment que Dieu est vivant, et lorsque nous avons confiance en lui et que nous croyons qu'il nous aime vraiment, nous pouvons alors vivre dans la paix. Et parce que nous vivrons alors dans la paix, nous pourrons procurer la paix. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix » dans le dernier texte qui a été lu. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Ce sont ceux-là seuls qui ont fait l'expérience de la paix de Dieu, ceux-là seuls qui vivent dans la confiance absolue en Dieu et dans la conscience totale de son amour, qui peuvent avoir la paix et par conséquent la répandre autour d'eux. Tout ce que Dieu nous donne, nous sommes appelés à le partager. Si nous avons reçu la paix de Dieu parce que nous vivons dans la confiance en Dieu et dans son amour, nous pouvons communiquer cela, cette confiance totale et cette prise de conscience de l'amour de Dieu pour nous aux autres. Paul disait « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix de Dieu, c'est notre privilège en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous avons vraiment reçu cette paix de Dieu, sinon nous pouvons la recevoir en la lui demandant, si nous pouvons vivre, apprendre à vivre dans la confiance en Dieu et dans la conscience du fait que Dieu nous aime vraiment, plus que personne au monde. Alors, nous vivrons dans cette paix que Dieu donne et nous pourrons, nous aussi, en parler aux autres et la communiquer aux autres. Que Dieu nous bénisse tous.